c'est là, moi, je me suis dit, bah, cette passion, ce goût que j'ai de raconter les histoires, de faire des images, eh bien, j'ai envie d'en faire un métier.
Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Mathieu Tordeur, qui est, tenez-vous bien, aventurier. Et oui, car on peut en faire un métier, comme presque tout au final, si on y croit assez et qu'on se donne les moyens. C'est ce qu'a fait Mathieu en partant chaque été depuis ses 19 ans à l'aventure, en commençant avec le Tour d'Europe à vélo, le Marathon des Sables ou encore un tour du monde en voiture avec son meilleur ami. C'est toutes ces expériences, menées pour le plaisir, qui ont forgé son envie mais aussi sa capacité à vivre de sa passion et qui l'ont mené en 2018 à devenir le plus jeune homme au monde à parcourir le pôle sud de l'Antarctique, seul et sans ravitaillement. Car pendant longtemps, Mathieu n'a pas cru qu'il pourrait faire de l'aventure son métier. On ne le voyait clairement pas dans les manuels scolaires, ce n'était pas présenté par les conseils d'orientation, et Mathieu n'avait personne dans son entourage qui venait de ce milieu. Lire des livres d'explorateurs, voir des documentaires, rencontrer des aventuriers, c'est tout ce cheminement qui a permis à Mathieu de se rendre compte que oui, on peut bel et bien réaliser ses rêves. Ou plutôt, entreprendre ses rêves. Car comme le dit si bien Mathieu, il faut rêver grand pour commencer petit. Si cet épisode vous plaît ou vous inspire, vous pouvez laisser un petit mot en commentaire sur Apple Podcast. Je passe tous les lire chaque semaine avant de mettre l'épisode en ligne. Je remercie aujourd'hui Baptiste S9 qui a laissé le commentaire suivant, un podcast de la vraie vie, très inspirant, tellement inclusif, c'est génial. Merci beaucoup Baptiste pour ce commentaire qui me fait chaud au cœur, je suis vraiment touchée de savoir que le podcast peut t'inspirer. Je vous rappelle aussi que les épisodes d'InPower sont désormais disponibles en best-of sur YouTube, si vous voulez ajouter l'image lors de l'écoute de notre conversation, ou simplement écouter ou réécouter les principaux enseignements partagés dans cet épisode. Et je suis heureuse de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Bienvenue sur InPower, je suis ravie de te recevoir. Tu es le premier aventurier que je reçois sur InPower.
Ah c'est vrai?
Ouais. Donc est-ce que tu peux déjà te présenter de la façon dont tu le souhaites pour les personnes qui nous écoutent et qui te connaissent peut-être pas encore?
Eh bien, je m'appelle Mathieu, tu l'as dit, j'ai 29 ans et effectivement je suis un aventurier. Aventurier c'est un mot un peu fourre-tout pour dire que je fais des expéditions un petit peu aux quatre coins du monde et que j'en rapporte des images, des histoires que je partage en conférences, en films et aussi en livres. Donc voilà, mais depuis 10 ans je fais des aventures en 4L, en kayak, à vélo, en stop, à pied, en ski. Et dans pas mal de destinations différentes. Et aventurier, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour définir un petit peu ce que je fais.
La fameuse étiquette que les gens ont envie d'entendre.
Mais en fait, c'est autant une activité d'auteur que de réalisateur de films, que de photographe, que de raconteur d'histoire. Voilà, mais c'est vrai que mon métier, c'est de faire des aventures. Ouais.
Donc du coup, si ça fait 10 ans que tu fais des aventures, ta première aventure, si je ne me trompe pas, c'était à 19 ans.
Ouais.
Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que tu peux nous en parler peut-être de ta première aventure, en tout cas celle que tu as ressenti comme tel?
La première aventure, c'est quand je viens de passer mon bac et que je pars traverser une partie de l'Europe à vélo. J'avais pas du tout d'expérience de voyage de longue distance ou de longue durée ou encore moins de voyage itinérant, mais j'avais cette envie, cette soif en fait d'aventure et de partir découvrir un petit peu le monde qui nous entourait à vélo. J'avais un ami plus âgé que moi qui avait fait un tour du monde à vélo, qui était parti de France pour aller jusqu'au Vietnam avec un vélo, et je me souviens, j'avais suivi son aventure jour par jour sur son blog. Facebook existait déjà à l'époque, mais il partageait son aventure sur son blog. Et j'étais en fait complètement fasciné par l'idée que c'était possible de traverser des pays, voire des continents entiers à la force des mollets, à la force des jambes.
Ouais.
Et je voyais son parcours et je me disais que voilà, moi aussi j'avais envie de partir à l'aventure. Moi aussi j'avais envie de vivre une aventure pareille. Alors pas aussi longue, pas aussi importante parce que je m'en sentais absolument incapable, mais sur une distance plus courte, pourquoi pas. Et donc quand il est rentré de son voyage, je lui ai demandé s'il accepterait de me prêter son vélo. Et donc, je lui ai emprunté son vélo pour partir, moi, à l'aventure. Et je suis parti de Budapest, en Hongrie, jusqu'à Istanbul, en Turquie. Et c'était effectivement ma première aventure. J'étais tout seul. C'était une aventure de 2000 km que j'avais fait sur un été, entre deux années d'études. Une aventure que j'avais autofinancée en étant serveur dans un resto de plage où j'avais gagné un petit peu de sous. Et après, avec ces sous-là, j'avais financé ce voyage qui était assez peu coûteux. Mais c'était effectivement ma première aventure. Mais tout ça venait d'un peu plus loin parce que j'avais été fasciné par pas mal de récits d'aventuriers, d'explorations auparavant.
Ok, c'est vrai que je pense que c'est une expérience hyper formatrice. Tu te dis quoi en rentrant de ce tour d'Europe à vélo? Qu'est-ce que ça t'a appris? Est-ce qu'il y a eu aussi peut-être des désillusions? Parce que j'imagine que l'idée qu'on se fait de quelque chose, c'est rarement ce qu'on vit au final.
C'est vrai. Moi, l'enseignement majeur que ça m'a apporté, c'est peut-être l'idée de se dire que bah, l'aventure, c'est pas forcément que pour les autres, quoi. Moi, au début, voilà, je regardais ce garçon qui s'appelle Eloi, qui avait fait ce voyage à vélo jusqu'au Vietnam, en me disant bah, ça je le ferai jamais, c'est trop difficile, il faut être hyper sportif, il faut avoir une condition psychologique et physique de malade. Et finalement, moi, j'ai réussi à émuler ça sur une petite distance, sur quelque chose de plus court, de plus modeste, même si c'était quand même important. Ouais. Et moi, l'enseignement majeur de tout ça, c'était de se dire que, bah non, en fait, que ça, c'est que des barrières mentales que tu t'imposes. Que moi, j'étais pas un sportif de haut niveau à ce moment-là. J'étais suffisamment sportif pour me dire que j'étais capable de faire 50, 60 km d'affilée tous les jours sur un vélo et répéter l'opération, mais que voilà, c'était pas une histoire d'argent, que c'était un voyage qui était peu coûteux au final. Moi, j'avais autofinancé le voyage, je dépensais moins d'argent qu'en étant étudiant, parce que je dormais sous ma tente, parce que je mangeais des nouilles chinoises, parce que je me déplaçais à vélo et que je me faisais héberger par des gens que je croisais sur ma route. Donc l'enseignement, il était là, il était aussi dans l'idée de me dire que bah, le monde n'était pas aussi dangereux qu'on voulait bien me le faire croire dans les médias ou ailleurs, parce que finalement j'ai fait que des bonnes rencontres dans ce voyage-là. Les gens étaient hyper curieux, enthousiastes, bienveillants avec moi. Alors bon, j'avais peut-être une tête d'enfant parce que j'avais 19 ans et que voilà, j'étais très ouvert à la rencontre, mais ça m'a donné clairement envie d'en faire d'autres.
Ça a duré combien de temps ça
Ça, c'était court, hein. C'était entre 3 semaines et 1 mois.
D'accord, ok.
C'était un voyage que j'avais fait sur un été, quoi. Mais que j'avais réussi à glisser entre 2 années d'études. Parce que avant de devenir aventurier professionnel, il y a eu beaucoup d'aventures amateurs, qui étaient une forme de formation, d'expérience, qui m'a mené sur la voie d'en faire un métier.
C'est pas trop dur quand on revient d'une telle expérience de reprendre les cours, tu vois, chaque matin dans sa petite routine
C'est vrai que j'avais un peu la tête ailleurs. Ouais. Après, moi, j'étais très heureux de faire ces études-là. Moi, j'ai passé mon bac en Normandie. Je suis de Rouen, en Normandie, à l'origine. Je suis juste après mon bac parti faire mes études en Angleterre. J'avais mal préparé un peu ma fin de terminale et j'avais pas eu les écoles que je souhaitais. Je me suis retrouvé en fac de droit anglo-américain au Havre. Et j'avais la chance de pas trop mal parler anglais parce que j'étais dans les classes où on faisait un peu plus d'anglais que la moyenne. Et donc j'étais assez à l'aise en anglais. C'est pour ça que je me suis retrouvé dans ce parcours-là. Mais finalement, la fac me convenait pas plus que ça. Et le problème, quand t'es en bac plus 1, c'est que bah, tu n'as plus accès aux écoles post-bac, que tu peux plus faire de prépa. De toute façon, c'était pas un choix. Enfin, c'était pas une option pour moi, mais je pouvais pas faire de prépa. Donc la fac était un choix un peu évident. Et finalement, j'étais pas très à l'aise dans ce choix-là. Et j'ai regardé un petit peu les options que j'avais. Et j'ai choisi de regarder en dehors de la France et j'ai regardé en Angleterre et donc j'ai postulé dans des facs anglaises, alors pas comme étudiant Erasmus ou pour un échange, vraiment comme un étudiant étranger qui irait faire ses études en Angleterre. Et donc j'ai été admis dans une fac qui s'appelle King's College à Londres pour suivre un bachelor, une licence en affaires européennes, donc tout ce qui touche à la construction européenne, à la géopolitique. C'était un sujet qui m'intéressait à ce moment-là et qui m'intéresse toujours d'ailleurs. Mais j'étais très heureux de faire ces études-là. Ouais. Et effectivement, j'étais content de vivre mes aventures sur l'été, mais j'étais aussi content d'avoir un bagage étudiant solide, parce que je rêvais de faire de tout ça une vie. Mais c'est difficile. Enfin, comment tu vis d'une passion? Enfin, c'est pas évident. Il y a plein de chemins, il y a plein de contraintes, il y a plein de barrières. Donc, j'avais la chance d'être intéressé par ces études-là. J'avais la chance d'avoir un entourage familial qui me poussait aussi à faire ces études-là, qui me soutenait. Et donc, j'ai essayé de mener les deux de front. Et finalement, c'était un bon choix parce que ça me permettait d'acquérir de l'expérience, de multiplier les aventures, de faire des erreurs, tout en suivant un parcours étudiant qui m'aurait permis de me retourner si tout ça ne fonctionnait pas.
Ouais.
Donc, c'était frustrant, mais d'un côté, c'était un mal pour un bien.
Ok. Et quand est-ce que tu commences à te dire que ça peut être possible de devenir aventurier professionnel? Parce que au début, ça naît d'une petite idée. Et puis, quand est-ce que tu te dis, en fait, ça, c'est une option, une vraie option?
Alors, en fait, j'ai eu du mal à assumer l'idée que ça pouvait être une vraie option. Mais donc je suivais ces études-là. Tous les étés, je partais à l'aventure. Donc il y a eu d'abord ce voyage à vélo. L'été d'après, j'ai traversé l'Atlantique à la voile en rejoignant un équipage dans les Caraïbes qui voulait ramener un bateau, un voilier des Caraïbes jusqu'en Angleterre. Mmh. Donc j'ai rejoint en tant qu'équipier ce bateau-là et on a traversé l'Atlantique. Et puis comme ça, en multipliant les aventures, je me suis dit, bah voilà, je pourrais en parler de cette façon. Moi, j'ai commencé à faire des images assez tôt. Je commençais déjà à me filmer, raconter sur un blog mes aventures. Avec le regard des gens, avec l'intérêt aussi que les gens pouvaient avoir pour ce genre d'aventure, d'évasion, et ben je me disais que il y avait peut-être quelque chose à faire, mais d'un autre côté je savais pas exactement comment le faire. Et puis il y a eu une aventure assez déterminante qui était un tour du monde que j'ai fait en 4L en 2013-2014, où là j'étais encore étudiant, mais avec mon ami d'enfance qui s'appelle Nicolas, on s'est dit qu'on avait envie de faire un grand voyage, et donc on a contacté nos...
C'est un grand voyage, en effet.
On avait envie de partir faire un tour du monde, mais comme plein de gens de notre âge, tu vois. Mmh. On avait envie de découvrir le monde avec nos propres yeux et de vraiment partir à l'aventure. Et pour ce faire, on avait besoin de temps. Et donc, plutôt que d'attendre la fin de nos études, où on se disait, quand tu as fini tes études, souvent tu es embarqué dans un stage où tu regardes un peu pour bosser. Et finalement, cette envie d'aventure, de voyage, de tour du monde, tu la mets un petit peu au placard. Et on n'avait pas envie de se retrouver dans cette situation. On avait plutôt envie de se dire, on a la motivation, on a le temps, on est embarqué dans les études, mais on a la possibilité de les mettre entre parenthèses pendant un an parce que nos universités sont d'accord. Et donc, on a fait ce choix-là en 2013. On est allé voir nos directeurs d'études, on leur a dit on aimerait mettre nos études entre parenthèses pendant un an. Nicolas a pris un congé ingénieur et moi j'ai mis entre parenthèses tout simplement, j'ai pris une année sabbatique en Angleterre. Mmh. C'était quelque chose qui se faisait assez bien. Et on a pris une 4L pour faire...
C'est une voiture, je précise.
Une voiture, pour ceux qui nous écoutent, la 4L c'est vraiment la voiture de nos grands-parents, de nos parents. Enfin, c'est la voiture française la plus produite dans l'histoire de l'automobile française. Ils en ont produit 9 millions, il me semble. Et donc, c'est une voiture au look un peu marrant, sympathique, qui rappelle un souvenir plus ou moins lointain à tous les Français. Donc, c'était un bon moyen aussi de fédérer ou de faire parler de notre projet avec cette 4L. Le projet était de partir de Normandie pour faire le tour de la Terre, quoi. Nous, on a essayé de rouler le plus possible vers l'Est, en Asie, donc jusqu'au Vietnam, pour envoyer la 4L ensuite à travers le Pacifique jusqu'aux États-Unis. Des États-Unis, on a récupéré la voiture, on est descendu au sud jusqu'au Brésil en empruntant la route panaméricaine, la Panamericana, qui est une route un peu mythique qui relie l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. Et du Brésil, quand on est arrivé au Brésil, on a trouvé un bateau sur lequel on est monté avec la 4L, qui nous a débarqué à Dakar au Sénégal, et du Sénégal on est remonté via la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne, jusqu'en France. Donc c'était, quand on regarde un peu la carte, si on me suit, c'était vraiment un tour du monde en roulant le plus possible sur la Terre, en mettant la voiture dans un bateau une fois qu'on voulait traverser un océan. Et c'était un vrai voyage géographique, un voyage de humain, copains humains aussi, parce que c'était un tour du monde, mais aussi un tour des hommes, quoi, parce qu'on était tout le temps au contact des populations qu'on traversait de manière assez amusante avec cette voiture. Et avec Nicolas, pour ce voyage, on voulait évidemment découvrir le monde, voyager, mais on avait envie de se rendre un petit peu utile à notre manière, à notre hauteur. Et donc on a regardé un petit peu les projets dans lesquels on pourrait s'investir, et du haut de nos 21 ans, on se disait que on pourrait aller, je sais pas, faire de l'animation dans les orphelinats par exemple, aller donner des cours d'anglais ou de français dans des lycées et tout, mais on se reconnaissait pas trop là-dedans parce que ça nous parlait un petit peu moins. Et donc on a regardé plutôt les problématiques de développement, et nous on a découvert le concept du microcrédit à ce moment-là. Et le microcrédit, je sais pas si tu connais, mais c'est un concept financier développé par Mouhamad Younous, qui a eu le prix Nobel de la paix en 2006, et qui est un apport de liquidité, un apport d'argent liquide à des personnes exclues du système bancaire classique, parce qu'elles sont soit trop pauvres que les banques classiques ne leur prêtent pas d'argent parce que c'est pas intéressant financièrement pour elles, ou que ces personnes n'ont pas de papier d'identité, ou qu'elles sont illettrées, et que ça rend du coup forcément la signature de contrat difficile. Mmh. Et donc ces personnes-là, elles sont... Sans ces apports d'argent, elles sont destinées à rester dans la pauvreté, quoi. Et aujourd'hui, il y a plein d'institutions de microfinance qui existent, qui viennent apporter cet argent-là à ces personnes défavorisées pour qu'elles démarrent des activités génératrices de revenus. Et donc ça, de manière très concrète, c'est par exemple acheter des tables, des chaises pour en faire un restaurant de rue et pouvoir faire quelques repas et les vendre, acheter un barbecue pour faire des grillades et les vendre dans la rue. Enfin, c'est vraiment, c'est des petites sommes d'argent. On parle de 100, 200, 300, 400 euros. Et il y a plein après, il y a des ateliers, des cordonniers, des coiffeurs. Et donc nous, l'idée, c'était d'aller rendre visite à 150 micro-entrepreneurs sur notre route. On avait récolté 25 000 euros via des partenaires et cet argent-là avait été réparti à plein de projets. Et donc ce projet d'aventure était autant un projet un petit peu de développement, même si on n'a rien inventé, on n'a pas inventé le microcrédit, on y a participé. Mais ce projet a été déterminant pour revenir à ta question première, parce que c'est là, moi, je me suis dit, cette passion, ce goût que j'ai de raconter les histoires, de faire des images, eh bien, j'ai envie d'en faire un métier. Et on en a fait un livre et un film pour la télé à l'issue de ce projet-là, alors que ce n'était pas des projets qui étaient prévus au départ. C'est des choses qui nous sont venues après. Et avec cet engouement, j'étais embarqué dans mes études, mais je me disais que à l'avenir, c'était vraiment ça que j'avais envie de faire. Mais ça m'a été, ça s'est un peu imposé à moi, quoi. C'était à force de faire. Ouais. Et c'était pas un projet, c'était pas un plan, c'était vraiment quelque chose qui est venu en faisant, tout simplement.
Il y a plusieurs questions qui me viennent suite à ce récit. Déjà, pour toutes les personnes qui nous écoutent, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont cette idée de faire un tour du monde. C'est quoi tes conseils, les premières étapes, en fait, quand on a l'idée pour donner vie à ce projet?
Mais je crois que d'abord, il faut pas mal butiner à droite à gauche, parce que des tours du monde, des voyages, on a tous un petit peu des idéaux, des envies, mais je crois qu'il faut lire les récits ou rencontrer tout simplement des gens qui ont fait ce genre d'aventure, ce genre de voyage. Parce que je crois que quand on est chez soi et qu'on rêve de ces aventures-là, y a pas mal de barrières qu'on s'impose ou qui viennent à nous. Je suis pas assez sportif, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, c'est trop dangereux, qui sont des barrières valables. Mais souvent, c'est des barrières psychologiques qu'on n'ose pas dépasser ou franchir par manque d'expérience, par peur, par... lâcheté est un mot trop fort.
Manque de courage, peut-être.
mais même moi, le premier, je me fixais ces barrières-là. Et en fait, je crois qu'à un moment, il faut voir grand, mais commencer petit. Et si on a envie de faire un tour du monde, commencer peut-être par un tour de France. Ou si on a envie de faire un long voyage à vélo, commencer d'abord par, faire Paris, Marseille à vélo. Enfin, je dis n'importe quoi. Mais souvent, en fait, on se bloque, on se bride parce qu'on est tout de suite en fait complètement écrasé par l'idée d'un tour du monde qui est terrifiante, alors qu'en fait il faut vraiment commencer par des petites choses, des choses plus modestes qui vont être autant d'accumulation d'expérience, de meilleure connaissance de soi pour après avoir l'ambition de faire quelque chose de plus grand. Et je pense que on a tous été un débutant à un moment, et tout ça est une histoire de cheminement et un moment de se dire, on se jette à l'eau et tout ça est une affaire de choix aussi. Le temps, c'est une chose, l'argent, c'en est une autre, évidemment, mais on n'est pas obligé de faire des voyages coûteux. Mon premier voyage, je dépensais encore une fois moins d'argent qu'en étant étudiant parce que c'était très modeste comme voyage. C'était une aventure qui était hyper enrichissante. Et l'histoire du temps, après, c'est un vrai choix, quoi. Et je pense qu'il faut vraiment se poser la question de se dire, est-ce que cette frustration que j'ai aujourd'hui de pas partir à l'aventure ou de pas partir faire ce tour du monde là, est-ce que ça va être un vrai regret dans ma vie? Est-ce que dans 15 ans je vais me retourner et me dire, oh là là, j'aurais dû faire ça avant d'avoir des gosses ou avant de me marier? Et encore une fois, même pour les gens qui ont des enfants et qui sont mariés et qui nous écoutent, il est pas trop tard. Et moi, je connais plein de couples et de familles qui ont fait des super voyages en famille. Mais est-ce que se poser la question de se dire, est-ce que ça va être un vrai regret, est-ce que ça va être une vraie frustration, est-ce que je vais m'en vouloir toute ma vie de pas avoir entrepris ces choses là? Et encore une fois, il n'est jamais trop tard, mais l'enseignement, en tout cas le message que j'en ai fait passer, c'est qu'il n'y a jamais de bon moment. Il n'y a jamais, jamais de bon moment pour partir à l'aventure ou pour se lancer dans un projet qui nous tient à cœur. Le moment, c'est maintenant. Et je crois qu'il ne faut pas attendre, parce que sinon, c'est des frustrations qu'on entretient et qui vont se transformer sous l'aspect de regret, et c'est un petit peu dommage.
Il y a aussi quand même, j'ai l'impression, tout un aspect organisationnel, logistique.
Oui, alors c'est vrai.
Quand est-ce que tu as commencé à le préparer? À quoi il faut peut-être penser? Surtout que maintenant que tu l'as fait, peut-être est-ce que tu avais tout anticipé? Parce que c'est un gros projet.
Oui et non, c'est vrai que oui, tu me parlais de l'organisation, de la logistique. Quand tu voyages avec une voiture, c'est contraignant, parce que le passage des frontières est contraignant, parce qu'il faut des assurances, parce que envoyer une voiture en cargo, c'est pas aussi simple que de prendre un billet de train pour aller à l'autre bout de la France. Donc ça demande quand même quand même une certaine organisation. Moi, j'avais la chance d'avoir un binôme, Nicolas, qui est mon ami d'enfance et avec qui c'est très fluide et on a des compétences complémentaires. Donc, moi, j'étais plutôt dans la partie partage, images, vidéos, écriture. Et Nicolas était plutôt dans l'administration, toutes les tâches un peu administratives, logistiques. Donc, il faudrait peut-être lui poser la question.
Un bon binôme, ça.
Mais c'est vrai qu'on était très complémentaires. Mais tu arrives à désamorcer ou à préparer tout ça en rencontrant des gens qui ont fait ces itinéraires un petit peu avant toi. C'est vrai qu'un tour du monde en 4L spécifiquement via notre itinéraire, bah, à ma connaissance, ça n'avait jamais été fait, mais sur des portions, il y avait des 4x4 qui avaient déjà fait ça, etc. Donc il faut essayer de parler à ces gens. Et puis après, tu te rends compte que bah, voilà, il faut y consacrer du temps, qu'il y a des éléments qui sont un peu, pour lesquels tu n'as pas vraiment... Enfin, tu peux pas vraiment passer outre, par exemple, tu vois, il y a des frontières, tu pourras pas passer. Donc, il faut contourner, ou alors il te faudra le bon papier, il te faudra la bonne assurance, que tu sais que, tu pourras pas trouver une ligne pour traverser un océan dans n'importe quelle ville. Donc, il y a des choses auxquelles il faut s'atteler de manière en priorité, quoi. C'est comme les visas, quoi. Si tu pars dans un voyage, la première chose que tu vas faire, c'est un visa, un vaccin, si tu vas dans un endroit qui demande, par exemple, la fièvre jaune, enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a des choses, t'es obligé de t'y atteler au départ et tu peux pas improviser.
Ouais.
Mais c'est important, à mon sens, de laisser une part d'improvisation. Parce que si tu sais que le 23 novembre, tu dors dans tel hôtel, dans telle ville, dans tel pays, finalement, le voyage, il n'existe plus vraiment. Moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir un itinéraire idéal. Bon, après, c'était ponctué par des rencontres avec des micro-entrepreneurs, donc on savait où on allait. Mais il faut se laisser de la place pour l'aventure, pour la rencontre, parce que c'est ça que tu vas chercher dans un voyage. Sinon, ça devient quelque chose de complètement formaté et tout ce que tu vas chercher d'aventure, tu le retrouves pas. Donc, je crois qu'il faut pas laisser de place à l'improvisation pour les tâches bureaucratiques, administratives. Et après, tout le reste, faut se laisser un peu libre cours à l'aventure, quoi. Mais nous, c'était quand même suffisamment préparé pour savoir que ça allait durer à peu près un an et savoir aussi que on pouvait envoyer la voiture d'un continent à un autre, de telle ville à telle ville.
C'est quoi ton plus beau souvenir de ce voyage, si t'en as un à nous partager?
C'est difficile toujours de classer, je trouve, un peu les souvenirs, les pays.
Un qui t'a particulièrement marqué, peut-être.
Mais moi, il y a quelque chose qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est quand on était en Bolivie, donc en Bolivie, en Amérique du Sud, où on est passé par un endroit qui s'appelle le Salar des Uyuni. Je ne sais pas si tu connais ou s'il y en a qui sont allés parmi les personnes qui nous écoutent, mais c'est un grand désert de sel, immense, qui est tout blanc, tout plat, et dans lequel, en fait, tu te retrouves comme sur une autre planète, parce que tu fais un tour autour de toi, tu as du blanc à perte de vue, et tu es tout seul avec ton meilleur pote, avec ta 4L au milieu de ce grand désert. Tu navigues à la boussole parce que t'as pas de route, t'as rien, quoi. Donc pour suivre un cap, tu regardes ta carte et tu essayes de tenir le cap de la boussole, parce qu'autrement tu fais rapidement des tours autour de toi-même. Et ça, c'est un très très beau souvenir, parce que je me souviens qu'avec Nicolas, ça faisait quand même au moins 8-9 mois qu'on était en voyage, que mine de rien on avait fait plus de la moitié du trajet, que c'était la première fois aussi où on prenait un peu de temps, tu vois, pour faire le point entre nous sur le voyage. On avait pris 3 jours à rester dans ce grand désert. C'est un désert qui est pas mal en altitude. Dans mes souvenirs, c'est à 3000 mètres d'altitude. T'as des étoiles assez fabuleuses la nuit. Enfin, moi, c'est les plus beaux ciels étoilés que j'ai vus, c'était en Amérique du Sud. Et on se retrouve dans cet environnement complètement naturel, à un moment du voyage un peu charnière, parce que c'était vraiment on n'était pas sur la route du retour, mais la Bolivie, c'était le moment où on allait retourner un petit peu vers le Brésil pour revenir vers le nord et revenir vers la France. Et on avait vu la majorité des micro-entrepreneurs et c'est un endroit qui est fabuleux, quoi, qui, complètement hors de ce monde, quoi, le Salar des Uyuni. Donc, très beau souvenir. Et puis en Bolivie aussi, où on a fait l'ascension d'une montagne à 6000 mètres d'altitude avec Nicolas, avec un guide. Où là, c'est comme toutes les ascensions de montagne, quoi. T'arrives au sommet, au lever du soleil. C'est beau, des beaux moments.
Là, j'ai visualisé, c'est vrai que c'est à faire une fois dans sa vie, je pense.
Ouais.
Ensuite, tu reviens de ce tour du monde, tu finis tes études.
Ouais.
Je me demande, c'est quoi. Enfin, voilà, tu diplômes. T'as quoi en tête à ce moment-là et qu'est-ce que tu fais une fois que tu vraiment t'es au sortir de tes études?
La fin de mes études en Angleterre, je me dis que j'ai envie de faire tout ça un métier, que j'ai envie de revivre des moments d'intensité comme j'ai pu les vivre dans mon aventure en 4L, que j'ai beaucoup de plaisir à faire des images. C'est un premier film qu'on a fait, qui a gagné un prix, qui a été acheté par une chaîne de télé. Donc je me dis, mais ce qui nous arrive avec Nicolas est assez incroyable, même si Nicolas a pris une autre direction. Mais en tout cas, moi qui étais assez moteur de ces projets un peu audiovisuels, je me dis que mes études me plaisent. mais que j'ai pas, enfin, que je vais pas suivre la voie de mes camarades, quoi, qui sont partis travailler pour l'Union européenne à la Commission, qui sont partis dans les instances internationales, des parcours géniaux, hein, et ouais, hyper intéressants par ailleurs, mais je me dis que j'ai plus envie de suivre cette petite voie. Qui est, enfin, l'expression d'une radicalité, un peu, parce que c'est des études qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai envie de faire, mais d'un autre côté qui me donne la liberté aussi d'entreprendre plein de trucs, parce que mine de rien, ces études-là, elles m'ont permis d'apprendre des langues, elles m'ont permis de parler en public, parce qu'en Angleterre, on met beaucoup l'accent sur les présentations orales, sur les travaux communs, etc. Et donc j'ai pu, j'ai bénéficié de ce bagage-là, évidemment. Enfin, je ne vais pas dire que mes études m'ont servi à rien, mais j'ai envie d'écouter un peu ce feu intérieur qui m'anime, cette envie de découverte, d'aventure, d'expédition, pour en faire un métier. Mais c'est pas quelque chose d'évident, quoi, parce que c'est compliqué de faire de tout ça un métier, mais c'est comme tous les métiers passion, quoi. Il y a une envie, après il faut le traduire avec des choses pragmatiques pour en tirer un revenu, parce que mine de rien, il faut vivre, quoi. Mais moi, en rencontrant des gens qui faisaient de l'aventure un métier, notamment en Angleterre, à la Société Royale de Géographie, qui est un espèce de centre où il y a des aventuriers, des photographes, des sportifs, des scientifiques qui viennent rendre compte de leurs aventures et de leurs découvertes. Quelque chose d'historique, hein, la RGS, Royal Geographical Society, ça a 200 ans, c'est quelque chose de très institutionnalisé dans les mœurs à Londres, de très connu, j'ai envie de dire. Et moi, je côtoyais ces gens-là. Et à force de côtoyer, à force d'avoir des gens en face de toi qui font de tout ça un métier, tu te dis que c'est possible, quoi. Tu te dis que si lui le fait, pourquoi pas moi, quoi. Et donc cette barrière que j'avais peut-être en moi, j'arrive à la faire tomber, parce qu'en face de moi, tu as des gars ou des femmes qui sont probablement un peu plus âgés que moi, mais qui ont commencé aussi à un moment et qui montrent un peu la voie. Mmh. Et donc effectivement, je ne suis pas encore suffisamment mûr pour me dire « je fais le grand saut, j'y vais ». Et donc je postule et j'obtiens un master en France. Donc je reviens en France, je fais ce master en sécurité internationale, donc tout ce qui touche aux risques terroristes, aux menaces modernes, au monde de l'humanitaire. Et d'ailleurs ma seule expérience professionnelle, vraiment professionnelle, j'ai envie de dire, c'était pour Médecins Sans Frontières, où j'avais fait mon stage de fin d'études là-bas, en lien là plus pour le coup avec mon master. Mais j'avais besoin encore de ça pour me dire, voilà, si toute cette envie d'aventure, d'expédition ne fonctionne pas, eh bien, je pourrais toujours me retourner. Et MSF, d'ailleurs, ça m'avait beaucoup plu et ça cochait pas mal d'envie, d'ambition que j'avais, parce que dans le monde de l'humanitaire, tu as quand même une forte dimension aventure, une forte dimension travail collectif, une forte dimension aussi utilité, qui sont des choses importantes pour moi. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est difficile. Ces parcours professionnels ou ces métiers passion, c'est pas aussi c'est évident, parce que quand on s'écoute, on est très aligné, mais qu'en fait en pratique, tout n'est pas si simple, et donc ça demande, je pense, vraiment un cheminement, ça demande de s'entourer des bonnes personnes, de saisir des occasions, des opportunités, et tout ça se construit. Mais à la fin de mes études, j'ai vraiment dû attendre la fin du master pour me dire, voilà, là on tente, on y va.
On a repoussé le bout. Et comme tu dis, je pense l'importance aussi des rôles modèles, que tu aies rencontré des personnes qui l'ont fait avant toi, et du coup te dire que c'est pas fou. Ça aide énormément, et je pense que ça manque au final dans pas mal de métiers, hein, ou de secteurs professionnels, quoi. Donc là, après tes 6-7 ans d'études, tu te dis c'est le moment. Tu diplômes quoi en juin? C'est quoi là, ça ressemble à quoi l'année d'après?
L'année d'après, c'est peut-être une des années les plus importantes de ma vie, parce que je suis effectivement diplômé en juin. Et pendant ces 2 années de master, j'étais dans un master qui était sécurité nationale, mais où on n'était pas étudiant en médecine, quoi. On devait pas passer notre temps au bloc ou à faire des stages. C'était un master, on avait 20 heures de cours par semaine. Et moi, j'ai toujours eu l'habitude de faire pas mal de choses à côté, et ce master me le permettait. Et donc pendant ces 2 ans, moi, j'ai préparé l'expédition qui m'animait depuis ma tendre enfance, quoi. C'était de faire une expédition en Antarctique. Donc l'Antarctique, c'est le continent le plus au sud du globe. Tu as l'Arctique au nord, l'Antarctique au sud. Et le projet, c'était de rallier le pôle sud en en solitaire et sans ravitaillement, c'est-à-dire de partir de la côte du continent Antarctique pour aller jusqu'au pôle sud, qui est l'axe de rotation de la Terre, tout seul et sans ravitaillement, ça veut dire sans qu'il y ait de la nourriture qui soit disposée tout le long de ma route. Donc à partir du moment où je partais de la côte du continent Antarctique, je ne bénéficiais de l'assistance ou de l'aide de rien ni de personne. Je n'avais pas de chien de traîneau, il n'y avait pas de dépôt de nourriture, il n'y avait pas de kite, parce qu'aujourd'hui on peut faire des expéditions avec des grands cerfs-volants. Mmh. Je suis en partie à la force de mes bras et de mes jambes. Et donc, pendant ces deux ans, j'ai préparé cette expédition qui était un peu l'expédition de tous les extrêmes, hein, parce que l'Antarctique, c'est le continent le plus froid, le plus sec et le plus venteux de la planète.
Tu peux nous donner juste des idées de température là, ouais, pour nous faire un peu kiffer.
L'Antarctique, le record de froid sur la planète, c'est en Antarctique, c'est moins 98 degrés, mais ça, c'est les températures qu'on a l'hiver. Moi, je suis parti pendant l'été austral. Donc, l'été austral, c'est comme c'est l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Donc, c'était plutôt de novembre à janvier. Je suis parti en 2018 et je suis arrivé au pôle sud en janvier 2019. Mais les températures que j'ai eues, elles étaient entre moins 5 et moins 45. Moins 5, c'est assez anormal. On pourra en parler d'ailleurs. Mm. Mais les températures les plus froides, c'était en moyenne peut-être moins 30, moins 35. Donc, évidemment, c'est très froid, mais c'est supportable. Hein. Si tu parles aux Canadiens, l'hiver, c'est les températures qu'ils peuvent avoir. Mais il faut se préparer. C'est sûr que moi, je ne suis pas né au Canada, je suis né en Normandie, je connais bien la pluie, un peu moins bien la neige. Mais donc, cette aventure, cette expédition, je l'amène 6 mois après m'être diplômé en juin ou en novembre 2018. Je pars pour l'Antarctique après 2 ans de préparation vraiment très assidue, un peu acharnée, de préparation de matériel, de préparation physique, de recherche de partenaires, de fonds, de sponsors, parce que c'est des expéditions qui sont coûteuses. Mais fort de mon tour du monde, fort de mes précédentes aventures et expéditions, mine de rien, je commence à mieux comprendre comment tout ça fonctionne. J'ai déjà écrit un premier bouquin sur ce tour du monde en 4L, j'ai déjà fait un premier film, donc j'ai des choses à montrer à des partenaires potentiels, donc je suis un peu plus crédible. Je fais partie de la Société des explorateurs français, qui est une espèce d'association d'aventuriers explorateurs dont font partie des gens comme Thomas Pesquet, Sylvain Tesson, Nicolas Hulot. Donc il y a des têtes d'affiche, tu vois, qui permettent de peut-être mieux situer un petit peu ce qu'on fait, ce que je pourrais apporter. Et donc je monte cette aventure là, mais c'est là pour le coup c'est des années qui sont intenses, hein, parce que il faut rendre les travaux pour mon master, il faut valider les études, etc. Et puis en plus de ça, il faut passer tout le temps que j'ai de libre à faire de la recherche de fonds et puis à m'entraîner sur les vacances scolaires, quoi. Donc moi, je passais mon temps en Norvège, au Spitzberg, à faire des expéditions polaires à la fois tout seul, mais aussi accompagné par un guide polaire professionnel qui m'enseignait les bonnes techniques, les bonnes pratiques, les bons réflexes pour survivre dans ces milieux-là, parce que
c'est pas inné de monter
une tente dans un vent fort avec des moufles, de se repérer dans un whiteout qui a un grand brouillard blanc. Donc j'apprends au fur et à mesure tout ça. Et je pars en novembre 2018 pour vivre cette expédition qui est un peu l'expédition pour moi de tous les superlatifs, parce que c'est la plus solitaire, la plus dangereuse, la plus longue, la plus froide. Donc je me lance dans ce projet un peu fou.
T'as pas commencé par le plus facile, c'est clair.
Mais après c'était aussi l'aboutissement de 10 ans d'aventure et d'expédition.
Pas encore 10 ans.
Pas 10 ans à l'époque, parce que c'est vrai que j'ai 29 ans aujourd'hui, ma première aventure, on en parlait plutôt à 19 ans. Donc oui, un petit peu moins de 10 ans, mais mine de rien, il y en a eu beaucoup. Il y a eu ce tour du monde en 4L, il y a eu la traversée atlantique à la voile, il y a eu des voyages à vélo, j'ai traversé le Sahara aussi en vélo électrique, il y a eu des voyages en stop, il y a eu des épreuves sportives où j'ai fait des marathons dans le désert du Sahara, comme le marathon des sables, des courses de vélo à travers toute l'Europe. Enfin, il y a eu beaucoup de choses.
C'est ça qu'il faut sentir aussi en confiance de le faire, quoi. C'était pas un défi, tu sors de nulle part et tiens, j'ai envie de relever ce challenge, quoi.
C'est impossible. Moi, je reçois pas mal à l'issue de cette aventure-là qui a été un petit peu médiatisée, qui a été suivie. J'ai reçu beaucoup de messages de gens assez touchés par l'aventure qui voudraient se lancer aussi. Et je suis super touché. Ça veut dire que les choses que je partage touchent, que ça inspire d'une certaine façon. Mais parfois j'ai l'impression je me remets en question, je me dis mais est-ce que j'ai suffisamment bien communiqué sur le fait que tu pars pas comme ça, quoi. Moi j'ai mis énormément de temps à m'en sentir capable, quoi. J'ai fait 50 jours peut-être d'expédition polaire en cumulé avant de me dire je me sens prêt. Et je n'ai pas fait ça tout seul, quoi. Il y avait des pros qui m'ont accompagné. Et puis même au-delà de l'expé polaire, il faut, enfin, c'est autant de la gestion de projet, ce genre d'aventure-là, parce que c'est des gros budgets, parce qu'il faut apprendre à parler et à communiquer avec des sponsors. Et tout ça n'est pas si simple.
Ouais. Bah, c'est vrai que j'ai reçu une navigatrice, Alissa Barrier, qui a fait le Vendée Globe.
Ah, très bien, ouais.
Et c'est vrai que, de ce qu'elle me disait, c'est vrai qu'on ne pense pas à toute la partie administrative et financière. Ouais. Et en fait, c'est super difficile... quand tu vois, elle n'a pas fait forcément d'études de commerce. Donc, en fait, elle passe plus de temps à démarcher des sponsors qu'à préparer la traversée du monde sur un voilier. Quoi.
Elle a 100% raison. Et c'est vrai que quand on va sur mon Instagram, on peut imaginer que je passe mon temps à faire des aventures et à faire le mariole à droite à gauche. Mais en fait, derrière tout ça, moi, l'expédition que j'ai fait en Antarctique, c'était 2 mois, 51 jours de marche en solitaire jusqu'au pôle sud. Mais avant ça, il y a eu 2 ans de préparation. Là, ça fait 2 ans que je suis rentré et ça fait 2 ans que je partage cette aventure-là dans les écoles, en parlant de, des mondes polaires, de dérèglement climatique, de la fonte des glaces, de l'Arctique, de l'Antarctique, et puis dans les entreprises, plutôt sur les thématiques de résilience, de dépassement de soi, de prise de risque, de motivation. Et puis, il y a eu des projets de livres, des projets de documentaires, des conférences, je le disais, mais aussi de partage de podcasts dans les médias, etc. Donc, ces métiers-là, tu passes assez peu de temps à réaliser vraiment le cœur de ce qui t'anime.
Ouais.
Et avant et après, il y a aussi un temps qui est long. Et si tu n'aimes pas toute cette partie préparation ou cette partie partage ou retour d'expérience, il faut changer d'activité parce que c'est la partie, c'est la plus grande partie du temps.
C'est la plus grande partie de ton temps. Ouais.
Et moi, j'ai énormément de plaisir à le faire. Ça fait 2 ans que je suis rentré. J'ai toujours beaucoup de plaisir à parler de cette aventure-là parce qu'elle m'a vraiment énormément... bousculée, et elle a été hyper intense et enrichissante pour moi, et c'est pour ça que j'ai écrit un bouquin et c'est pour ça que j'ai fait un film pour raconter ça, parce que c'est un autre moyen de raconter cette aventure. Mais il y aura d'autres expéditions, mais toute cette partie là elle est importante pour moi, carrément, mais c'est la majeure partie du temps. Et aujourd'hui, faire de l'aventure un métier, c'est autant, je pense, ça ressemble très fortement à un quotidien d'un entrepreneur. Je sais pas si c'est un mot vulgaire pour dire ce que je fais, mais c'est la vérité, quoi. Il faut apprendre à se vendre, il faut apprendre à raconter son aventure, il faut apprendre à trouver des partenaires, il faut apprendre à communiquer dessus.
C'est entrepreneur de sa vie,
c'est un peu ça.
Thème de ce podcast.
Bah ouais.
Bon, alors si tu nous parles de ces 51 jours, en effet, déjà pourquoi t'as mis autant de limites, c'est-à-dire tout seul, sans ravitaillement, etc. Est-ce que c'est le goût du risque? Parce que moi, spontanément, je me dis, ça me dérangerait pas d'avoir des points au fur et à mesure du voyage où je sais que je peux manger, quoi. Parce que, je trouve qu'il y a une grosse partie, goût du risque, parce que t'es pas sûr de t'en sortir.
Sur le risque, je pense qu'on a tous une acceptation du risque qui est différente.
Ouais.
Tu vois, moi, j'ai une acceptation du risque qui est probablement différente de la tienne, mais qui est très différente de celle que peut avoir quelqu'un comme Mike Horn, par exemple, ou d'un spationaute qui irait, faire une sortie extravéhiculaire. On a tous une acceptation du risque qui est différente, qui est liée à l'expérience. Moi, très clairement, je suis parti tout seul en Antarctique, dans un endroit où il fait très froid, où tu peux avoir des crevasses. Mais par exemple, je ne suis pas parti sans un téléphone satellite, sans avoir une équipe basée sur la côte du continent qui checkait, qui vérifiait où j'étais, que j'avais au téléphone satellite tous les soirs pour leur dire à quelle position j'étais. J'étais aussi traqué avec une balise GPS. Mais il y avait cette possibilité aussi de me faire récupérer si jamais j'étais en difficulté. Donc oui, j'étais tout seul, mais il y avait quand même des gens qui vérifiaient un petit peu où j'étais. Je m'étais entraîné, j'avais quand même cette expérience-là. Je suis pas une tête brûlée,
C'était pas masochisme.
Non, mais c'était très construit quand même. Et moi, j'aime trop la vie pour m'en remettre au hasard ou à la chance ou à me dire on y va et puis on verra. C'était quand même construit. Donc je pense, sur le risque, on n'est pas égaux forcément par rapport à ça, mais l'expérience parle beaucoup et joue beaucoup. Après, moi, ce qui m'animait, c'était deux choses. La première, c'est que j'étais fasciné par ce grand continent blanc, l'Antarctique. Je trouve ça magnifique. Ouais. C'est un continent qui fait 28 fois la taille de la France, qui n'a jamais connu d'hommes de manière autochtone, c'est-à-dire que tu n'as jamais eu aucune présence humaine de manière autochtone. Aujourd'hui, l'humain, il est présent, mais dans des bases scientifiques. Et pour moi, c'est la dernière frontière sur Terre, quoi. C'est mystérieux, c'est... Et donc moi, je voulais sortir des récits, des documentaires que j'avais pu voir sur ce continent pour en faire l'expérience physique, quoi, l'expérience de me tenir là-bas, de toucher cette glace. Voilà, j'étais animé par l'idée de rallier l'axe de rotation de la Terre. C'est un peu stupide, mais c'est quelque chose, moi, qui... Enfin, c'était une attraction un peu irrationnelle pour ce continent.
Rêve, hein.
Ouais, c'est un rêve mots, hein. Qui me dépassait complètement. Et j'avais envie d'assouvir ce rêve fou. Ça, c'était la première motivation. Et la deuxième motivation, qui est peut-être plus personnelle, c'est que je voulais connaître ou vivre la solitude sur une longue durée. Moi, j'avais fini mes études. Je trouvais que c'était un bon moment dans ma vie pour faire un pas de côté, tu vois, pour essayer de ralentir un peu le rythme effréné dans lequel on est un petit peu tous quand, bah voilà, à ces âges-là où on finit ses études, on fait des stages, des machins, on a des copains, on fait plein de trucs. Et moi, j'avais 26 ans et je trouvais que c'était un moment pour justement prendre 50 jours pour soi et rien que pour soi, sans un téléphone qui sonne, sans notification, sans rendez-vous, sans rien du tout, pour se retrouver vraiment avec soi. Et voir ce que faisait la solitude sur une longue durée. Tu parlais d'Alexia Barrier, bah, un Vendée Globe, ça dure entre 80 et 100 jours. Bah, les navigateurs, ils se retrouvent confrontés aux éléments, à la nature, dans tout ce qu'il y a de plus brut et beau. Et moi, c'est ça que je voulais vivre aussi. Mmh. Alors effectivement, le terrain choisi était compliqué, mais je pense qu'aussi, dans ces moments compliqués, c'est aussi des moyens de s'éprouver, mais aussi de se réaliser, de mieux se connaître et de se dépasser. Voilà, moi, c'est des choses que j'avais fait dans d'autres environnements, sur des périodes plus courtes. Et là, voilà, je cumulais un endroit qui me fascinait à une expérience nouvelle de solitude qui m'intéressait. Et c'est pour ça que je suis parti, tout simplement. Mmh. Et si on m'avait dit, bah, Louise, si tu m'avais dit, je viens avec toi, bah, j'aurais dit non, moi, je veux
être seule.
Je veux vivre ça seule, quoi, parce que c'est vraiment ça que je suis allé chercher, quoi.
Ouais, non, mais je trouve ça très fascinant. Et ce que tu dis est tellement vrai. On n'a plus de temps, même une journée, quoi.
Ça n'arrive jamais d'être seul.
Ou t'es seul et en fait, t'es face à toi-même.
Ouais, c'est quelque chose qu'on fuit, a priori.
Tu peux être seul, enfin, tu vois, pendant le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont été seuls.
Ouais.
Mais tu regardes des films, t'es sur ton téléphone, tu regardes des séries, tout ça. Et il y a un côté où, en effet, depuis que je médite, je pense un peu à ça, quoi. Le côté où on ne sait pas vraiment qui on est avec nous-mêmes, on ne sait pas si on apprécie notre propre compagnie.
Ouais.
Et on ne sait pas ce qu'on est sans les autres, quoi.
Ouais. La solitude, après, c'est pas quelque chose que je recherche dans ma vie à tout prix. Hein. Et d'ailleurs, c'est vrai que la solitude que t'évoques, quand tu te retrouves seul confiné dans un appartement, par exemple, pendant le premier confinement, c'est sportif. Hein. C'est pas si simple que ça. D'autant plus
non,
que
et moins appréciable.
Et moins appréciable. Ouais. Et d'autant plus que ce confinement qu'on a connu, c'était pas quelque chose qu'on avait choisi. Enfin, moi, j'ai choisi cette solitude. Je savais aussi que c'était une expérience qui durait 50 jours. Parce que moi, j'avais emmené 50 jours de nourriture dans un grand traîneau. Faut m'imaginer. Moi, j'avais donc deux skis, deux bâtons de ski. Et puis, je marchais comme ça entre 1 et 3 km heure tous les jours en tirant une espèce de grande luge dans laquelle il y avait toute ma nourriture, tout mon équipement, c'est-à-dire la tente, le réchaud, le sac de couchage. Tout ça pesait 115 kilos au départ quand même. Donc, une fois et demi mon poids et tout ça se déchargeait au fur et à mesure de l'expédition qui faisait 1150 km de long pour rallier le pôle sud. Mais donc j'avais 50 jours de nourriture et ces 50 jours-là étaient la durée de cette expérience. Donc j'avais un objectif, j'avais, tu vois, une direction à suivre.
Ouais. Alors que donc il y avait un côté performance.
Performance, oui et non, mais comme je partais sans ravitaillement, il fallait, enfin j'avais 50 jours de bouffe.
Arriver. Mais donc, ouais, tu avais un objectif d'accomplissement chaque jour, de tant de kilomètres et tout, quoi.
Ouais, alors plutôt de temps, enfin de durée d'heure de ski. De kilomètres, parce que l'Antarctique, c'est pas un continent qui est plat. Le pôle sud, il est à quasiment 3000 mètres d'altitude, donc en fait, tu fais que monter. Alors, c'est pas les Alpes, hein, parce que c'est 1100 kilomètres l'expédition, donc c'est très graduel et doux.
Ouais.
Mais parfois,
t'es remonté, quoi.
Ouais, tu montes un peu, parfois la neige est molle, donc c'est plus compliqué. Ouais. Et puis le traîneau se décharge, donc devient de plus en plus léger, donc tu accélères sur la fin. Mais tout ça pour dire que ces 50 jours-là, enfin ce cadre-là, c'était un moyen de faire du mieux que je pouvais dans cette limite, alors que le premier confinement, bah, on disait, je me souviens plus, mais on disait ça va durer un mois, ah non, ça va durer encore 6 semaines de plus. Et donc c'est difficile de vivre la solitude quand t'as pas d'horizon, quoi. C'était un peu différent. Moi, c'était quelque chose que j'avais choisi, et même si j'étais confiné aussi d'une certaine façon, parce que j'étais dans une petite tente et je pouvais pas trop m'échapper,
carrément, t'as nulle part où aller.
Il y avait des points communs et des divergences, quand même.
Et tu penses à quoi quand tu marches là, tous les jours parce que c'est un truc aussi qui me fascine, quoi, de se dire j'imagine que t'as pas le même état d'esprit les 5 premiers jours et les 5 derniers.
Pas du tout. Tu penses à quoi, à l'Antarctique? Il faut pour vraiment se l'imaginer, parce que si on tape Antarctique sur Google, on va surtout voir des images de la péninsule Antarctique. La péninsule Antarctique, c'est ce bras de terre qui remonte vers l'Amérique du Sud et qui est magnifique, parce que moi, je ne suis jamais allé, mais de ce que j'en ai vu, tu as des icebergs, tu as beaucoup de faune, tu as des glaciers, tu as des montagnes, etc. Moi, là où je suis allé, le cœur du continent Antarctique, c'est un grand désert, c'est tout blanc. Il n'y a rien qui puisse vivre et survivre, donc tu n'as aucun animal. Les seuls animaux, ils sont sur la côte du continent Antarctique. Moi, j'ai fait que m'éloigner de la côte. Tu n'as pas de faune, tu n'as pas d'arbres, tu n'as pas de rochers. C'est vraiment, tu as du blanc à perte de vue en permanence. Et donc, c'est un environnement qui est très stérile. Tu as très peu de couleurs, parce que à part le bleu du ciel, qui est rarement bleu, parce qu'il y a souvent des nuages, tu n'as que du blanc. Gris, quoi. T'as pas d'odeur parce qu'il fait moins de 0 degré, donc t'es comme dans un congélateur en permanence. T'as très peu de stimulation sensorielle en fait. Le seul bruit que tu fais, c'est le bruit des skis sur la glace, c'est le bruit du vent sur tes vêtements. Mais parfois, quand t'as pas de vent et que t'es immobile, t'as pas du tout de vent. Donc t'es dans un univers qui est complètement nouveau, alien, différent de ce que tu connais déjà. Et donc, forcément, il faut avoir, je pense, une vraie raison d'être, d'être là en tout cas, une vraie envie, quoi. Si t'es là par hasard ou t'en as pas envie, je pense que tu tiens pas très longtemps. Donc, tu penses à quoi? Moi, j'étais très concentré en fait sur mon objectif, quoi, parce que c'est une expédition qui était difficile, évidemment, parce que tout seul, parce que elle a été peu faite, parce que les conditions aussi en 2018 étaient très compliquées. Il a fait très chaud sur le début du parcours. Très chaud, ça voulait dire qu'il faisait 20 degrés au-dessus des normales. Putain. De saison. Alors, il faisait moins de 0 degré. Mais au lieu de faire moins 25, moins 30, il a fait moins 5 pendant 3 semaines avec beaucoup de chutes de neige. Et donc ça, en fait, c'était un problème parce que ces chutes de neige, eh bien, elles s'accumulaient et mon traîneau s'enfonçait dans la neige molle. Mes skis aussi, en fait, je pédalais dans la semoule. Quoi. En gros, je n'arrivais pas à avancer au rythme que je m'étais fixé. Et donc, j'ai accumulé beaucoup de retard. Donc, en fait, j'étais très concentré sur l'idée de skier au maximum, d'être le plus performant possible dans ma foulée. Et puis, bon, après, quand j'étais dans un rythme un petit peu méditatif, un peu automatique, eh bien, j'essaie de me plonger dans des souvenirs, dans des expéditions que j'avais pu faire ou dans des souvenirs en France avec mes copains, en famille, parce que c'est une espèce de mécanique ou de
des sens presque.
Ouais, mais de façon en fait de pas perdre, de se donner un petit peu de la contenance et de donner des choses à moudre à son cerveau, tu vois, parce que c'est une gymnastique en fait. Tu te dis, voilà, ce voyage à vélo, je suis parti de là, et puis j'avais quel matériel, et puis après j'ai rencontré quelle personne. En fait, tu te refais un peu le film, et puis ça t'aide en fait à avancer. Mais comme quand tu te projettes aussi dans le futur, quoi. Moi, j'essaie d'imaginer la fin de cette expédition, ce que j'allais faire l'année prochaine, j'essaie d'imaginer d'autres aventures, et puis c'est une espèce de rêverie, les yeux ouverts, que tu fais et qui permet d'avancer de manière plus sereine. Et puis de manière plus pragmatique, j'écoutais beaucoup de podcasts, j'écoutais pas mal de musique, et puis parfois tu fais rien, quoi. Tu es une espèce de méditation les yeux ouverts, comme ça, et t'essayes de profiter de l'instant présent, et c'est assez reposant aussi d'une certaine façon. Mais finalement, il y a pas mal de moments aussi où t'es concentré sur le cap, sur l'endroit où tu mets tes skis, tu t'alimentes beaucoup, enfin tu... Voilà, les journées se passent comme ça.
Et tu manges quoi? Parce que c'est une vraie question.
Tu manges beaucoup. Moi, j'avais préparé le plan nutritionnel alimentaire avec une nutritionniste.
Ouais.
Et en fait, tu manges pas des trucs très sains, quoi. Tu manges moi, je mangeais 6500 kilocalories par jour. Donc, c'est trois fois ce qu'un adulte mange en temps normal. Parce que dépense énergétique de fou, parce qu'il fait froid. Et donc, tu manges de la nourriture déshydratée. Donc, c'est de la nourriture dont on a enlevé toute l'eau et que tu réhydrates avec de l'eau bouillante. Ça, c'est surtout pour les dîners. Donc tu as des bœufs bourguignons déshydratés, des spaghettis carbonara déshydratés. C'est pas si mauvais que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En tout cas, c'est la seule chose que tu as à bouffer de chaud, et donc tu es hyper heureux quand t'as ça.
Ouais.
Et sinon, toute la journée, tu manges du chocolat, des noisettes, des fruits secs, de la viande séchée, du fromage. J'avais du salami aussi, du salami danois qui était si gras qu'il gelait jamais. Ça, c'était bien. Du muesli le matin. Moi, je prenais un petit café aussi. Tu bois pas tant que ça parce que tu essayes de jamais transpirer. Parce que si tu transpires dans un environnement polaire, c'est la fin du monde, parce que cette transpiration, elle se transmet à tes vêtements, et puis après, quand tu t'arrêtes, ça gèle, et après, c'est difficile à faire sécher.
Ah.
Donc, il faut toujours, en fait, gérer le froid en ventilant ses vêtements, donc t'ouvres devant, t'ouvres sous les bras, t'ouvres sous les côtés des jambes, comme ça, t'es toujours un peu en train de d'être entre le chaud et le froid. Mais tu manges des quantités de nourriture faramineuses, quoi.
D'accord.
Moi, j'ai mangé 6500 calories pendant 50 jours et j'ai même perdu du poids, quoi. Donc, technique.
Ouais, là, si,
programme minceur.
Si vous voulez manger plus, partez en Antarctique. Ok, bon, bah, c'est vrai que c'est assez dingue. Hein. J'imagine, en effet, tu reviens. Pareil, c'est pas trop dur de revenir à Paris, métro, boulot, dodo, entre guillemets, hein, parce que ton quotidien a dû être très rempli, mais
alors,
c'est ouais, une claque.
Alors, c'est une claque, oui et non. Alors, il y a deux choses. C'est que quand je suis arrivé au pôle Sud, donc après 51 jours de marche, je suis arrivé, donc c'est cette base scientifique américaine qui est basée au pôle Sud, dans laquelle il y a d'autres personnes, d'autres humains qui sont là. Et quand je suis arrivé, il y avait des gens qui m'ont félicité parce que, bah, en arrivant, bah, je suis devenu la première, enfin, le premier Français à réaliser ce genre d'expédition et puis la plus jeune personne au monde des 20 petites personnes qui avaient fait cette expé avant moi. Et donc, les gens me tapent dans le dos, machin, et puis ils me disent, bah, là, il y a un avion qui part pour la côte du continent antarctique. Si tu veux, tu peux monter dedans. Et moi, je regarde les mecs et je leur dis, mais non, enfin, je suis incapable de monter dans ton avion maintenant, quoi. J'ai marché 50 jours pour atteindre ce point-là. Ça fait 2 ans que je prépare cette expédition et puis 5, 10, 20 ans que je rêve de ce continent. C'est pas pour vous m'enlever le vieil pôle sud si rapidement. Et donc, ils comprennent et me disent, bah, ok, ouais, bah, si tu veux, reste. Et puis, bah, l'avion reviendra d'ici une semaine, venir te chercher et puis d'autres personnes, parce que l'avion n'était pas affrété pour moi. Et donc, ça, c'était une solution que j'ai choisi. J'étais nourri sur la base, donc c'était bien parce que j'avais plus de bouffe. Donc, j'ai pu rester là-bas. 7 jours, je suis resté une semaine. Finalement, c'était un peu long, mais j'étais hyper content quand même de profiter de ce moment-là. Mais c'était un peu une transition, en fait, entre l'extrême solitude. Ouais. Et puis le retour dans la vie réelle, où en fait j'étais sur cette base où moi j'étais entouré de personnes qui connaissaient l'Antarctique, qui comprenaient d'une certaine façon un petit peu ce que j'avais pu vivre. Donc c'est une espèce de sas de transition qui était hyper bienvenue, quoi, hyper simple, parce que bah, je renouais un contact avec le monde réel. Et après je suis rentré au Chili et en France et à Paris. Et la transition, en fait, elle a été assez douce parce que mon aventure, elle ne s'est pas arrêtée à partir du moment où j'ai atteint le pôle Sud. Mon aventure, elle continue de vivre. Et la preuve, je suis encore en train d'en parler avec toi aujourd'hui. Parce que je suis rentré, j'ai tout de suite fait un documentaire avec une boîte de prod pour raconter cette aventure dans un documentaire de 52 minutes. Ça s'est passé à la télé. J'ai commencé à faire des conférences dans les écoles et dans les entreprises. Ensuite, je me suis mis à l'écriture du bouquin. Le bouquin est sorti à Noël en 2020, là, il y a quelques mois. Et donc, en fait, bah, j'ai raconté mon aventure différemment, avec d'autres personnes. Et donc, c'était un moyen d'atterrir doucement, finalement.
Ouais,
et en fait,
ouais,
j'ai la chance, l'immense chance, d'avoir réussi à faire de tout ça un métier. Que quand je suis rentré, tu vois, de mon expé, je ne me suis pas retrouvé devant un ordi, dans un open space, dans un métier qui ne me plaisait pas, en me disant devant mon tableur Excel, oh là là, c'était quand même mieux en Antarctique, j'étais quand même vachement mieux tout seul sur la glace, quoi. Moi, ce qui me plaît le plus dans ce genre d'aventure, c'est autant le départ en expédition que le retour de l'expé, quoi. Je pars pas dans ce genre d'aventure pour fuir quelque chose. Dans ma vie ici aussi en France, je suis très entouré par plein de gens. Je suis pas quelqu'un de solitaire par nature, même si je trouve que l'expérience de la solitude est quelque chose d'enrichissant et d'intéressant. Mais donc le retour, en fait, est un monde d'opportunités et ça me donne encore plus envie de refaire des aventures. Et cette fois, peut-être, en m'embarquant avec un vrai message, une vraie cause, parce qu'il y a un truc que tu as eu la délicatesse peut-être de ne pas me demander, mais c'est que cette aventure-là, c'était une aventure très perso, très égocentrique, très égoïste d'une certaine façon, parce que moi je suis parti pour moi, et je l'ai toujours assumé ça d'ailleurs. Je me suis posé la question de me dire, est-ce que je pars pour une cause, est-ce que je pars pour défendre un combat, est-ce que, et en fait je me disais, ça pourrait être intéressant, mais ce serait un peu malhonnête de ma part, parce que bah, c'est pas la raison d'être de mon aventure, c'est pas la raison pour laquelle j'ai envie de faire cette expé. Enfin, je la fais parce que c'est une motivation très profonde, c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis que je suis petit. Et je me disais, plutôt que de m'embarquer dans quelque chose que je pourrais pas défendre à 100% et qui correspondra pas exactement à ce que je veux véhiculer, et bah autant prendre le contre-pied et d'assumer ça et trouver des partenaires qui se reconnaissent dans cette vision de dépassement de soi, de vivre ses rêves. Et peut-être que là, maintenant que je suis revenu, c'est pas peut-être, c'est je suis sûr, j'ai envie justement d'essayer de me mettre au service ou de mettre au service ces aventures-là, au nom d'une cause ou d'un combat ou quelque chose qui pourrait servir autre chose que ma petite personne, et en tout cas être qui pourrait me dépasser, tout simplement.
Ouais, parce qu'en effet je me dis que quand même assez rapidement t'as dû réfléchir à ce que t'allais faire par la suite, même si bon, en effet, déjà écrire un livre ça prend énormément de temps, en parler il y a énormément de choses à dire, mais quand est-ce que t'as commencé à te dire Et si la prochaine expédition, ce serait pas ça, est-ce que tu avais des pistes
Là, la prochaine expédition, il n'y en a pas. Enfin, pour le moment, il y a des projets là, qui vont avoir lieu cette année et l'année prochaine, mais rien d'aussi spectaculaire que l'Antarctique pour le moment. J'ai évidemment d'autres rêves et d'autres envies, mais je trouve que pour avancer dans ce milieu de l'aventure, tu ne peux pas faire de l'aventure que pour de l'aventure. Enfin, je pense que c'est quelque chose qui est dépassé. Enfin, aujourd'hui, l'exploration... Tu vois, c'est un grand mot. Les gens parfois me disent que je suis un explorateur. Moi, je ne me reconnais pas dans cette définition. Enfin, à part mon propre potentiel, c'est la chose que j'ai explorée. Quoi. Même quand je suis allé au pôle Sud, quand je suis arrivé au pôle, il y avait une base scientifique en place depuis 1956. Alors effectivement, l'Antarctique n'est pas parcouru de part en part par des petits skieurs comme moi. Mais finalement, l'exploration géographique au sens premier du terme, c'est un peu fini, quoi, à part l'espace
et les fonds marins.
Ouais. Les fonds marins, en tout cas, on ne les connaît pas. Mmh. Mais enfin, tout a été un petit peu cartographié. Et donc, il y a assez peu de terres vierges à découvrir. L'exploration, elle va se situer pour moi vraiment dans l'infiniment grand comme le spatial ou l'infiniment petit comme l'atome, le chromosome. L'exploration scientifique, pour le coup, c'est vraiment quelque chose où il y a encore évidemment plein de choses à faire. Mais c'est vrai que maintenant, l'aventure, moi, j'ai plus envie de la concevoir en termes de pédagogie ou de sensibilisation. Enfin, je veux dire, c'est ça, moi, qui m'intéresse. Je pense qu'on a besoin de scientifiques pour nous raconter un petit peu comment le monde va aujourd'hui, tu vois, et témoigner un petit peu de tout ça. On a besoin aussi de personnes qui vont sur le terrain, tu vois. Moi, je me vois bien... à terme, après on verra ce que l'avenir me réservera, mais peut-être faire le lien entre les scientifiques qui sont vraiment, moi je suis pas scientifique pour un sou, donc qui font vraiment les constats, qui sont légitimes dans leurs observations, et le grand public qui a peut-être besoin justement de personnes qui aillent sur le terrain pour incarner justement ces messages scientifiques qui sont pas forcément super audibles. Moi je me vois bien faire ça et j'ai des projets justement dans ce sens-là pour la suite. Parce que les mondes polaires qui sont maintenant un petit peu ma région, pas de prédilection, mais qui me passionnent pas mal. Il
fallait quelqu'un pour la choisir.
Je pense qu'il faut des gens qui puissent en parler, quoi. Et moi, en tout cas, c'est quelque chose qui me plaît bien. Mm-hmm.
Est-ce que tu peux nous donner une idée de ta routine, entre guillemets, quand t'es en France, justement, quand t'es pas en aventure? Chaque jour est différent et si c'est aussi la richesse, mais pour nous donner un ordre d'idée, peut-être pour que les gens se rendent compte.
Moi, je suis pas quelqu'un de routine, de rituel. Ou parfois, il y a des journalistes qui me demandent aussi qu'est-ce que t'emmènes toujours en expédition. Non, j'ai pas de grille ou quoi que ce soit. Mais pourquoi pas hein. Mais en tout cas, moi, je suis pas quelqu'un de rituel ou de routine. Moi, j'aime bien, par exemple, les plans de dernière minute. Et ce moment, j'en parlais encore il n'y a pas si longtemps avec des amis. Mais c'est vrai que cette crise du Covid, elle a tous les défauts du monde, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose qui est assez amusant, c'est qu'elle favorise quand même les plans de dernière minute. Parce que comme on n'a pas du tout de visibilité ou de plans à long terme, il y a quand même plein de choses qui peuvent s'organiser au dernier moment. Et ça, c'est quand même assez amusant. C'est des choses qui avaient un petit peu moins lieu avant. Et donc, moi, la routine, je suis quelqu'un peut-être un petit peu de spontané, tu vois, je saisis des trucs qui me viennent à moi. Le fait d'avoir fait cette expédition et d'avoir été un peu visible dans ce monde de l'aventure français, il y a quand même beaucoup de projets qui me sont venus depuis et que j'ai pu saisir et donc qui m'engagent dans des nouvelles choses et qui font qu'il y a, comme tu le dis, il n'y a pas un jour qui est pareil. Mais sinon, pour mon quotidien, il ressemble beaucoup, beaucoup au quotidien des personnes qui nous écoutent. Moi, je passe beaucoup de temps derrière mon ordinateur à écrire des mails, au téléphone, en rendez-vous, à rencontrer des gens. Je suis pas un drogué de sport, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Évidemment, j'aime bien me dépenser. Moi, je fais beaucoup de vélo, mais pas non plus à des doses insensées. Moi, j'aime bien être dans la nature et donc j'ai besoin de m'aérer, de sortir. Là, c'est vrai que je suis basé à Paris. Et que l'avantage de Paris, c'est que tu peux quand même sortir assez vite avec tous les trains qui peuvent exister. Donc, ma routine, elle est assez similaire, j'imagine, à celle d'un salarié ou d'un entrepreneur. Ce qui me plaît le plus dans ce que je fais, et c'est vraiment, vraiment ça qui m'anime le plus et qui me rend le plus heureux, c'est le fait d'être indépendant et de faire ce que tu veux, un peu quand tu veux, de partir en week-end le mardi, ça te chante. Ça, c'est ce qui me rend heureux quand je me lève le matin. Quoi.
Une grande liberté.
Ouais, vraiment.
Est-ce que tu as un livre ou un film ou un documentaire ou les trois à recommander, à conseiller aux personnes qui nous écoutent?
Mais je vais recommander un livre de Jean-Louis Etienne. Jean-Louis Etienne, je ne sais pas si tu vois exactement le personnage, mais c'est le parrain, enfin, c'est la personne qui a parrainé mon expédition en Antarctique et qui est un explorateur polaire français qui a un certain âge maintenant et qui est la première personne à avoir rallié le pôle Nord en 1986 en solitaire et qui a fait des expéditions polaires complètement fabuleuses au siècle précédent et qui en a encore aujourd'hui en préparation. Et Jean-Louis, moi, c'est un mec qui m'a bouleversé parce que c'est un gars d'une humilité sans pareil, c'est un pédagogue, c'est un défenseur de l'environnement, du climat, c'est quelqu'un qui parle très bien, qui écrit très bien. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de recommander son bouquin qui s'appelle Persévérer aux éditions Paulsen. Persévérer, tout simplement. Et c'est vraiment le récit de ses expéditions et toute la persévérance, le travail et le temps que ça demande pour réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et cette dimension de persévérance, moi, je la trouve... c'est hyper beau la façon dont il en parle. Et on peut tous s'approprier un petit peu ces messages-là dans ces projets, qu'ils soient d'aventure ou perso ou pro. Donc, persévérer, ça se lit très, très bien. Okay.
Je mettrai ça dans les notes du podcast.
Persévérer, Jean-Louis Etienne.
J'ai deux petites dernières questions pour toi. Si jamais tu voulais entendre quelqu'un sur ce micro, qui est-ce que ce serait ?
J'aimerais bien entendre Denis Brognard. Moi, je regarde pas Koh-Lanta. Je suis pas du tout un fan de Koh-Lanta. Je connais pas Koh-Lanta. Mais Denis Brognard, il m'a interviewé pour faire un podcast justement sur son podcast Vie d'aventure. Et je trouve que c'est un excellent, excellent intervieweur. Vraiment, j'ai rarement eu un intervieweur aussi bon que ça. J'étais vraiment bluffé, quoi. Il est excellent. Et je trouve que le mettre de l'autre côté, ça devrait être intéressant.
C'est vrai que moi, je regardais pas mal Koh-Lanta quand j'étais plus jeune. Et je suis assez surprise de voir que ça marche toujours aussi bien aujourd'hui. Il y a peu d'émissions comme ça qui ont traversé les années. Et c'est vrai que je me dis, il a toujours le bon mot, la bonne question à poser aux différentes personnes. Donc en fait, je pense qu'il a une expérience dans ce domaine qui doit être assez incroyable, c'est clair.
Et je pense qu'entre le présentateur Koh-Lanta et l'homme, il y a une différence.
C'est un
jeu de télé-réalité, donc il se prête parfaitement au jeu. Mais et là, il vient de sortir un bouquin et ça m'intéresserait.
Ok, on va essayer d'organiser ça. Ouais. Et du coup, la dernière question que j'ai à te poser, c'est la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ?
Je crois que prendre le pouvoir de sa vie, c'est savoir ou réussir à s'écouter. Je pense que c'est quelque chose de compliqué, de difficile de s'écouter, de vraiment, assumer à 100% qui on est. Parce qu'il y a plein de contraintes, il y a plein de barrières, on en a parlé suffisamment. Mais je pense que c'est ça, c'est réussir à suivre sa voix, à écouter sa petite voix.
Ok. Trop cool. Merci beaucoup Mathieu pour cette conversation hyper enrichissante.
Merci Louise.
C'était vraiment hyper inspirant pour les personnes qui nous écoutent et qui maintenant veulent en savoir plus sur toi, sur tes écrits, tes documentaires. Où est-ce que tu veux qu'on les redirige ?
Facilement, sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn. Moi j'ai la chance de m'appeler Tordeur, T-O-R-D-E-U-R, donc on n'est pas beaucoup à s'appeler Mathieu Tordeur, donc si tu tapes Mathieu Tordeur sur quelques plateformes que ce soit, a priori tu tombes sur moi.
Vrai privilège.
Ouais, c'est vrai.
Super, je mettrai tout ça dans les notes et j'espère à très vite.
À bientôt.
Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Mathieu. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant @MathieuTordeur et @MyBetterSelf pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer l'épisode à deux amis qu'il pourrait aider ou inspirer et laisser un petit 5 étoiles sur Apple Podcast pour que je puisse y voir votre commentaire. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous êtes les vrais. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.